Tous les chantiers navals dignes de ce nom se trouvent dans des ports ou des embouchures de fleuves. Nul ne songerait à construire un paquebot au sommet d'une colline, c'est évident. Et pourtant, le plus grand navire jamais construit avant 1858 le fut sur la terre ferme, loin de toute mer. Je continue à lire dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde, et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Verset 7. La vraie foi se traduit toujours en action. L'apôtre Jacques écrit « Car comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les actes est morte. » Celui qui a confiance en Dieu le manifeste dans sa façon de vivre, ce qu'il fait et ce qu'il dit. Abel, le second fils d'Adam et Ève, s'est approché de Dieu par la foi et Hénoc, de la lignée d'Abel, s'est rendu agréable à Dieu par sa foi. Noé est le troisième héros du chapitre 11. Il représente l'obéissance de la foi. Lorsque quelqu'un place sa confiance en Jésus, il reçoit la vie éternelle. Mais ensuite, Dieu désire qu'il se comporte en enfant de Dieu et accomplisse des bonnes œuvres, même si celles-ci n'ont rien à voir avec le salut qui s'obtient par la foi seule. Pendant tout son ministère, l'apôtre Paul a proclamé et défendu bec et ongles que c'était exclusivement sur la base de la foi que l'homme était déclaré juste devant Dieu. Pourtant, il a également enseigné que les croyants doivent faire des bonnes actions. Il écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. » Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Fin de citation. Les bœufs d'abord, la charrue ensuite. Le salut est un don de la grâce de Dieu que l'on saisit par la foi qui doit être suivi d'une vie riche d'œuvres bonnes. Tous les héros cités dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux ont manifesté leur foi d'une manière concrète. Noé fait son apparition au milieu d'une humanité totalement corrompue. Je lis le texte de la Genèse. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre. Et il en eut le cœur très affligé. Il dit alors, « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Noé habitait quelque part en Mésopotamie, dans l'Irak actuel, entre les fleuves Tigre et Euphrate. Un jour, l'Éternel est allé le voir et lui a dit « Tu vois combien les êtres humains sont corrompus, alors j'ai décidé de faire venir un déluge et de tous les détruire, sauf toi. Donc, je veux que tu construises un bateau pour sauver ta famille. » Plus exactement, le texte de la Genèse dit « Toi, Noé, construis un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Tu ménageras une ouverture dans le haut du bateau, un espace de 50 cm entre les côtés et le toit que tu fixeras par-dessus. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras 3 étages. » Dieu explique à Noé le travail titanesque qui l'attend. Pour quelqu'un dont le nom veut dire repos, c'est pour le moins paradoxal. En tout cas, ce bon Noé n'était pas fait pour la vie contemplative. Homme de foi, obéissant, il a cru que Dieu allait juger la terre et que le seul refuge pour lui et sa famille serait ce bateau qu'il va construire. Noé, qui n'avait jamais vu une goutte de pluie, a laissé en plan ce qu'il faisait et abandonné ses ambitions personnelles pour se lancer dans le projet pentagruélique et grandiose que Dieu lui assigne. Remarquez qu'il ne s'est pas plaint de son sort, il n'a pas discuté ou cherché à s'esquiver et n'a pas non plus fait traîner les choses en longueur. Il a obéi sur le champ, puis jour après jour pendant 120 ans. Son attitude est remarquable parce qu'il ne connaissait que les petits bateaux que les gens utilisaient pour traverser le fleuve ou pour aller à la pêche. Il n'avait probablement aucune expérience en construction navale et n'avait jamais entendu parler d'un énorme transatlantique capable de naviguer sur des flots en furie qui n'existaient nulle part. Cela dit, il est quasi certain que Noé était un homme très riche, béni de Dieu, et qui avait donc les ressources nécessaires pour se lancer dans une entreprise aussi colossale. Il a donc commencé par rassembler du matériel et est parti en forêt couper des arbres en compagnie d'une main-d'œuvre qu'il a recrutée ou qui était déjà à son service. Noé a commencé à construire à l'âge de 480 ans et ses enfants sont nés après ses 500 ans. Donc, Sem, son aîné, a vraiment pu participer à la construction de l'arche quand il avait, disons, 15 ans, c'est-à-dire 35 ans après le début de la construction. Puis ses deux frères, Cham et Japhet, se sont également joints à ce travail qui dura 120 ans. Noé, dit l'auteur, avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. Littéralement, Noé a été saisi d'une pieuse attention, c'est-à-dire qu'il a reçu la révélation avec beaucoup de respect. Il a pris Dieu au mot. Il fallait vraiment qu'il ait une bonne dose de foi pour se lancer dans une telle aventure, car ce que l'Éternel lui demandait n'avait guère de sens, un peu comme quand il a demandé au père Abraham de sacrifier son fils. Mais comme Noé était un homme fidèle, et entièrement dévoué à Dieu, il était prêt à obéir à n'importe quel ordre de sa part. Pendant les 120 ans qu'a duré la construction de l'arche, Noé a prêché à ses contemporains et son message consistait à les avertir que l'Éternel allait bientôt les juger à cause de leur méchanceté, un peu comme Jonas qui a proclamé aux gens de la capitale assyrienne « Encore 40 jours !» et Ninive est détruite. L'apôtre Pierre appelle Noé un prédicateur de la justice et il écrit que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. La vie et le témoignage de cet homme de foi contrastaient avec le monde antédiluvien, méchant, cruel et incrédule. Quand les gens ont vu Noé prendre hache, scie et marteau, ils ont compris qu'il était vraiment décidé à construire ce bateau. Comme en plus, il annonçait la venue d'un jugement par une eau qui tomberait du ciel, Noé a dû faire l'objet des boutades et des moqueries de toute la région. C'était facile de se moquer de lui parce que d'une part, il n'avait jamais plu, et d'autre part, son chantier était sur la terre sèche, loin de toute mer. Et troisièmement, les fleuves ne pouvaient pas accommoder un pareil navire. Mais rira bien qui rira le dernier. Les persifleurs n'empêchèrent pas Noé de persévérer dans sa tâche de charpentier et de prédicateur. Il avait pour estrade l'armature de ce gigantesque navire et entre deux coups de marteau, il rappelait aux railleurs pourquoi ils construisaient cet immense bateau et qu'ils devaient se repentir sans tarder. Mais aucun des concitoyens de Noé ne prêta l'oreille à son message, si ce n'est sa famille proche, sa femme, ses trois fils et leurs épouses. Les contemporains de Noé se sont condamnés eux-mêmes en refusant de se repentir de leurs mauvaises actions. Quand on lit la description de ce bateau, le premier élément qui saute aux yeux est que, contrairement à une idée répandue, ce n'est pas une petite coquille de noix. Conçu pour flotter avec un fond de cale plat, ce bâtiment possédait 3 ponts, ce qui donne une surface totale de 11 250 m² pour un volume de 56 000 m³. En d'autres mots, ce bateau correspond à 10 trains de marchandises de 50 wagons chacun, ou à un paquebot moderne de taille moyenne. Ce n'est qu'en 1858 qu'un navire plus imposant que l'Arche de Noé fut construit. Jusqu'à cette date, le plus grand bâtiment flottant s'appelait l'Himalaya et faisait en volume à peu près la moitié du bateau de Noé. Les proportions de ce navire sont idéales pour résister à la plus grosse tempête. La longueur fait 6 fois la largeur, ce qui assure une stabilité maximum pour flotter parallèlement aux vagues. Les navires de ligne conçus pour se déplacer rapidement ont un rapport d'environ 8. Les tankers géants de pétrole, qui sont lents mais avancent tout de même, ont un rapport longueur-largeur de 7. L'autre ratio important est la largeur sur la hauteur, qui était de 5 sur 3. Ce rapport permettait à l'arche de se coucher sur son flanc jusqu'à 90 degrés et de se redresser d'elle-même. Noé a simplement suivi les instructions que Dieu lui a communiquées, mais il faut également ajouter que, contrairement à une autre idée répandue, les premiers êtres humains étaient tout aussi intelligents que vous et moi. En troisième lieu, Noé n'a pas cherché à construire un navire de ligne capable de se diriger contre vents et marées dans une direction précise, tout en affrontant de plein fouet des vagues de 20 mètres. L'arche n'était pas conçue pour la maniabilité, mais pour la stabilité, son objectif étant seulement de protéger les êtres humains et les animaux qui se trouvaient à l'intérieur. Il suffisait donc à ce bateau de résister aux éléments qui allaient frapper la terre tout en se laissant aller au gré du vent et des flots. À cause de tous les passagers, il fallait beaucoup d'air frais, donc une grande ouverture. Dans le texte, le mot utilisé pour fenêtre veut dire plein midi, quelque chose d'éclatant ou splendeur du ciel. Cela signifie que cette bouche d'aération et de lumière de 50 cm de largeur courait très certainement en haut et tout du long sur un côté du navire. Cette fenêtre était munie d'un battant ou d'une sorte de volet qui pouvait être fermé lorsque la tempête faisait rage. Au-dessus de l'ensemble se trouvait le toit en forme de voûte qui débordait sur les côtés afin d'offrir une protection supplémentaire contre les eaux, de manière à ce qu'elles ne pénètrent pas par cette ouverture longitudinale. Les 3 étages et le fond de cale de cette arche étaient divisés en alvéoles afin d'accommoder les humains, tous les animaux et leur ravitaillement. Même jeunes, ceux-ci sont de tailles différentes, ce qui laisse supposer que leurs compartiments respectifs devaient être de dimensions variables afin que chaque espèce s'y trouve à l'aise sans pour autant gaspiller de la place. Enfin, Noé devait aussi enduire de goudron l'intérieur et l'extérieur du bateau. Or, et curieusement, le mot hébreu pour « goudron » a la même racine que celui qui veut dire « expiation ». En d'autres mots, le goudron empêchait le jugement par l'eau de pénétrer dans l'arche, tout comme le sang expiatoire de Jésus protège le pécheur croyant du châtiment divin. Un dernier détail, mais de taille, l'arche n'a qu'une seule entrée. Soit on entre par là, soit on reste dehors. Cette caractéristique rappelle une parole du Christ qui a dit « Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. » À l'époque de Jésus, les enclos à brebis n'avaient qu'une seule entrée. La nuit, le berger s'y couchait en travers, ce qui forçait les bêtes sauvages ayant un appétit pour une brebis de passer d'abord et littéralement sur le corps du berger. L'arche est une belle image du salut offert en Jésus-Christ. Elle était bien assez grande pour contenir tous les animaux nécessaires à la survie de chaque espèce et avait suffisamment de place pour accommoder tous ceux qui auraient voulu venir à Dieu afin d'être sauvés. En effet, et comme l'écrit l'apôtre Pierre, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le sacrifice du Christ est plus que suffisant pour expier tous les péchés jamais commis ou qui le seront. Jésus a déclaré « Je ne repousserai pas celui qui vient à moi ». L'attitude générale des hommes au temps de Noé n'est pas différente de ce qu'elle est aujourd'hui dans le monde. Les gens sont fondamentalement méchants les uns envers les autres, il n'y a qu'à écouter les informations. Ceux qui détiennent le pouvoir s'en servent pour écraser leurs semblables et se remplir les poches. La cupidité et l'égotisme sont les deux composantes principales des relations humaines. Et ça ne changera pas avant que Jésus-Christ n'établisse son royaume de justice sur toute la terre. Le Seigneur lui-même a dit « Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. » En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Parmi les dictons qui flottent dans certains milieux, il y a celui-ci. Si Dieu ne détruit pas notre monde, il devra faire des excuses à Sodome et Gomorre. C'est une façon de parler, bien sûr, puisque Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il y aura un prochain jugement, mais au lieu d'un déluge d'eau, il sera de feu. Et le seul refuge se trouvera dans l'arche de Dieu qui est Jésus-Christ. Je continue l'épître aux Hébreux. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Verset 8. Abraham était un bon païen et un homme riche qui vivait paisiblement à Ur, en Chaldée, une région fertile et en compagnie de gens culturellement raffinés. Il n'avait aucune intention de bouger, mais dès qu'il a compris ce que l'Éternel lui demandait, il a fait ses valises et préparé sa caravane de chameaux. Comme Noé qui s'est lancé par la foi dans un projet fou, Abraham a quitté le confort de sa patrie pour aller. Dieu seul savait tout, car lui-même n'en avait pas la moindre idée. Mais pour cette raison, l'apôtre Paul utilise Abraham dans ses récits comme modèle, l'exemple à suivre, l'archétype, l'étalon qui mesure la foi authentique. Paul dit même que seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. Cet homme avait tellement de foi qu'il a pu distinguer dans le futur lointain la venue du Messie 2000 ans avant qu'il ne vienne. En effet, Jésus a dit aux Juifs « Abraham, votre père, a exulté de joie rien qu'à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été transporté de joie. » Les rabbins enseignaient que si Abraham avait été choisi pour être le père des Israélites, c'est parce que c'était un homme juste par sa façon de vivre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux veut donc montrer qu'il n'en est rien, mais qu'il a été déclaré juste à cause de sa foi. C'est vrai que dans la souveraineté de Dieu, l'Éternel a choisi Abraham et lui a parlé, mais lui, il a prêté l'oreille, il a obéi et cru aux promesses divines. Je continue le texte. Par la foi, Abraham a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même que Isaac et Jacob qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Verset 9. Même à l'époque d'Abraham, les tentes n'étaient pas considérées comme une habitation permanente ou digne de ce nom. Elles étaient tout juste bonnes pour les commerçants nomades. Les fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'Abraham aussi furent des vagabonds errants, parce que même s'ils se trouvaient en terre promise, ils naviguaient ici et là sans jamais être installés. Toute sa vie, Abraham a été un étranger en Palestine et il n'y a même pas construit une maison. Il cheminait dans le pays qui lui avait été promis, mais sans en posséder une parcelle, sinon l'emplacement de la tombe de sa femme Sarah. Abraham a passé sa vie à attendre. 25 ans se sont écoulés entre la promesse d'un fils et sa venue au monde, et il n'a jamais hérité de quoi que ce soit. Noé a construit un immense navire, mais ça lui a quand même pris 120 ans. Entre son projet qui n'avançait pas et son témoignage qui ne donnait aucun résultat, il aurait pu se décourager, mais non, il a persévéré dans son travail et a prêché. La foi regarde au-delà de l'immédiat et de ce qui est visible et se focalise sur l'objectif à atteindre. Je continue le texte. « Car Abraham attendait la cité aux fondements inébranlables dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. » Verset 10. Bien que la possession du pays promis était importante pour Abraham, son espérance était dans les lieux célestes où Dieu lui réservait une habitation permanente pour l'éternité. Cette perspective a certainement été pour lui le meilleur remède contre le découragement. Cette même espérance soutient aussi le croyant qui traverse les circonstances adverses de la vie, surtout s'il doit faire face à une grande détresse. L'apôtre Paul écrit « Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. » Et il exhorte son disciple Timothée disant « Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. »